おかしいおかしい。ケイケイビ
Bonsoir, avec des confrères journalistes, nous analysons les grands faits qui ont dominé l'actualité pendant la semaine. Pour ce soir, trois thèmes, comme d'habitude, ont été retenus pour vous, à savoir conclave de l'alliance et la majorité présidentielle à Kinshasa. Parmi les résolutions figurent la révision des certaines dispositions de la Constitution et du mode de scrutin pour les élections de 2011, et aussi la disposition relative à la reprise des sièges par les députés au Parlement, après l'avoir quitté pour diverses raisons. Dans notre deuxième thème, nous parlerons de l'arrestation lundi à Paris de Calixtum Mbarushimana, secrétaire exécutif des forces démocratiques pour la libération du Rwanda FDLR. Il est soupçonné par la CPI des crimes de guerre et crimes contre l'humanité dans le Kivu en 2009. Notre dernier thème de ce soir va porter sur la grève généralisée dans le secteur de la santé en RDC. Les médecins du secteur public ont lancé ce mouvement à travers le syndicat national des médecins. Trois confrères sont avec moi pour le débat, à savoir Rombo Taba, journaliste au quotidien L'Observateur, journal paraissant à Kinshasa. Bonsoir, Rombo.
Bonsoir, Kelly.
Israël Moussala, journaliste à Géopolis, un magazine économique des activités extractives. Bonsoir, Israël.
Bonsoir, Kelly.
Et Jean-Stanny Bilanga, journaliste à la radio-télévision nationale congolaise Kisangani. Il intervient à partir de la province orientale. Bonsoir, Jean-Stanny Bilanga.
Bonsoir, Kelly. Écoutez, bonsoir à tous les auditeurs de Radio Kati.
Bienvenue à tous dans cette émission. Conclave de l'alliance de la majorité présidentielle, arrestation de Calixte Mbarushimana, grève généralisée dans le secteur de la santé en RDC. Ce sont là les thèmes que nous avons retenus pour vous ce soir. Jetons un coup d'œil dans les colonnes des journaux finnois pour voir comment la presse écrite a abordé et analysé ce sujet. La revue de presse avec vous, Samuel Kachat.
Bonsoir. Le conclave de l'alliance pour la majorité présidentielle tenue à Kinshasa et l'arrestation à Paris de Calixte Mbarushimana parmi les sujets qui ont occupé une place importante dans les colonnes des journaux parus cette semaine à Kinshasa. Africa News qui parle des résolutions du conclave de l'AMP dans la ferme présidentielle de Kindangati affirme que ces assises ont ressemblé fort bien à la messe de Kisangani parce que les grandes résolutions de Kisangani ont obtenu l'adhésion de tous les participants au conclave. Il s'agissait entre autres de soutenir la candidature de Joseph Kabila comme candidat unique de cette famille politique à la présidentielle de 2011. Le Phare rapporte que les assises de Kindangati ont confirmé les options du PPRD, dont la plus importante est la candidature unique de Joseph Kabila ainsi que sa victoire au premier tour aux prochaines élections présidentielles. La Prospérité, un autre quotidien paraissant à Kinshasa, estime que le PPRD avait déjà prédit à Kisangani la candidature de Joseph Kabila comme candidat unique de l'AMP aux prochaines présidentielles. Terminons cette revue de la presse avec l'affaire Calixte Mbarushimana. Accusé de viol collectif en RDC, le Rwandais Calixte Mbarushimana, arrêté à Paris, titre L'Observateur. Par cette arrestation, la Cour pénale internationale vient de réaliser un véritable coup, précise ce journal. La tempête des tropiques note par contre une coïncidence troublante entre cette arrestation du leader des FDLR et la réouverture du signal de RFI en RDC. Ce journal pense que ceci n'est pas un fait du hasard. Tout à l'heure des concessions faites entre la France et la RDC estime la tempête des tropiques.
Merci Samuel Kachat pour cette revue de presse. Israël Moutala, vous êtes journaliste à Géopolis, un magazine économique des activités extractives. Un mot par rapport à la revue de presse que nous venons de suivre.
C'est une revue de presse, encore une fois, de qualité. Je salue encore tous les soirées de la plume qui font un travail titanesque pour nous informer. Et donc, elle est plus ou moins complète et globale et elle me satisfait pleinement.
Rombo Taba, vous êtes journaliste au journal L'Observateur. C'est un quotidien qui paraît à Kinshasa. Un commentaire sur cette revue de presse.
Oui, un travail de fourmi. Outre ces dossiers, il y a également l'affaire Mounené qui a rebondi avec la conférence de presse du ministre Amir Mende qui s'est fourvoyé en contradiction. Il y a le dossier Armand Pungulu. Et en tout cas, la presse a fait son travail.
Il faut dire que la semaine était riche en actualité.
Très, très riche.
Samuel Louis Bilanga, journaliste à la radio-télévision nationale Kisangani. Donc, vous intervenez à partir de la province orientale. C'est quoi l'actualité aujourd'hui dans cette province?
Bien, l'actualité, c'est la grève des médecins du secteur public qui vient en fait s'ajouter à une autre grève, celle des enseignants. Il y a plus ou moins deux semaines que les enseignants du primaire et du secondaire ont cessé le service, protestant contre la gratuité de l'éducation au niveau de première, deuxième et troisième primaire, parce que selon eux, cela constitue un manque à gagner par rapport à la prime des parents. Mais l'actualité, c'est aussi, et ça c'est vraiment une bonne nouvelle pour la RTMC qui s'en a mis, l'acquisition des deux émetteurs, un émetteur radio et un émetteur télévision, parce que vous savez que ça fait plus ou moins 5 mois que Kisangani n'émet plus à partir d'ici, donc il faut toujours prendre l'équipe. Mais maintenant, grâce au gouvernement provincial, la RTMC Kisangani vient d'avoir ses émetteurs propres, donc c'est ça ce qui a fait la qualité ici à Kisangani.
Merci Jean-Stanley Bilanga. Après la revue de presse, on va placer un mot sur la marche mondiale des femmes à Bukavu. Le coup d'envoi de la marche mondiale des femmes a été donné mercredi 13 octobre et les activités vont se poursuivre jusqu'au 17 octobre. Les organisatrices estiment que cette action internationale présente des opportunités pour renforcer l'identité de leur mouvement. Elle exprime également la solidarité internationale et le fait que les femmes sont vigilantes vis-à-vis des situations vécues par leurs consoeurs dans d'autres coins du monde, dont l'est de la RDC. C'est la première dame de la RDC, Mme Olive Lembe Kabila, qui a prononcé le mot d'ouverture devant plusieurs milliers de personnes, dont la majorité constituée de femmes. Rombo Taba, quelle signification donner à cette marche?
Moi, généralement, j'arrive ce genre d'activité, mais pas intérieur, parce que moi, je crois que dans le contexte actuel de la pauvreté qui se vit dans le tiers monde, avec tout ce qu'il y a comme viol, les femmes ont plus besoin d'être sécurisées, de voir leurs conditions de vie s'améliorer. Et de se livrer à ce genre de spectacle. Moi, personnellement, je me demande aussi, une telle marche, qu'est-ce qui va changer dans la vie des femmes, surtout en ces jours où le monde entier célèbre la journée mondiale de l'alimentation de la femme rurale, qu'est-ce qui va arriver après à cette catégorie de femmes qui sont aujourd'hui en train de souffrir, de continuer à travailler comme si elles étaient encore au Moyen-Âge. Donc, je pense qu'il y a beaucoup plus à faire et d'organiser ce genre de spectacle qui personnellement me convient.
Et donc pour vous, ce n'était pas la peine d'organiser cette marche?
Non, moi je pense que vraiment c'est un sens. Il y a beaucoup d'argent qui a été dépensé autour de cette marche. Et les femmes sont parties de Kinshasa, on a payé des billets d'avion, il faut voir des collations qui vont, de la restauration, tout ça. Mais est-ce que toute cette marche d'argent n'aurait pas pu servir au financement de certaines activités, par exemple, pour améliorer les conditions de travail des femmes rurales, des ménagères et tout ça, des maraîchères.
Merci, Rombo Taba, Israël Moussala. Vous êtes aussi d'avis que ce n'était pas opportun d'organiser cette marche?
Je trouve cette marche tout à fait opportune, parce que cette marche va attirer l'attention sur le drame que vivent les femmes congolaises. Les femmes congolaises sont massivement violées, et cette situation ne va pas s'arranger demain. L'État congolais est incapable de résoudre cette situation. Il faudrait alors que la communauté internationale s'implique. Et je replace cette marche dans le cadre d'une plus grande mobilisation de la communauté internationale pour résoudre ce fléau que vivent nos femmes, que sont les viols massifs et tout ça. Donc cette marche, pour moi, a attiré une fois de plus l'attention sur la RDC, du fait que la condition de la femme en RDC doit être améliorée, la femme doit être protégée, doit être sécurisée, elle ne doit pas être violée dans son intimité. Et donc, les femmes du monde entier, aux côtés des femmes congolaises, se sont solidarisées face à cette cause. Je pense que c'est une bonne marche dans la prise de conscience face à ce drame que vivent les femmes, qui doit absolument s'arrêter parce que elles nous conduisent à des situations d'indignité humaine, chose qui n'est pas tolérable.
Et vous pensez que la marche peut avoir un impact sur la lutte contre les violences faites à la femme en RDC?
Oui, je pense qu'elle aura de l'impact parce que pour lutter efficacement contre ces fléaux, il faut que les gens se mobilisent, il faut que les gens soient au courant de ce qui se passe dans notre pays. Alors cette marche a attiré l'attention de la communauté internationale. Ah, donc, en attirant cette attention, il y aura plus de mobilisation de fonds pour les cliniques juridiques, il y aura plus de mobilisation de fonds pour les cliniques spécialisées dans le traitement de femmes violées. Donc, ce sont les structures qui nécessitent des fonds, et ces fonds ne peuvent être mobilisés que par rapport à une action, permettez-moi enfin, l'expression de ce type de marketing. Il faut vendre un peu ce côté dramatique du vécu côté des femmes, et les marches comme celle qui a été organisée récemment à Bukavu participent justement à une communication qui peut justement aboutir à une mobilisation plus accrue de financement afin de prendre mieux en charge, afin de combattre les causes, notamment des groupes armés et qui pullulent. Et donc tout ça, ça participe.
Merci Israël Moussala. Jean-Stani Bilanga, quelle signification vous donnez à cette marche?
Bien, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose parce que, en fait, ça attire l'attention de la communauté tant nationale qu'internationale. C'est bien bon. Et les conseillers Rombo, je crois, parler d'un show, qui ne valait pas la peine. Et je suis en fait partagé entre les deux confrères. Je me dis que c'est une bonne chose qu'il y ait cette marche, que l'on sensibilise tout le monde afin que cesse le viol des femmes. Mais je me dis aussi que c'est pour quelle finalité? Est-ce que la marche va aboutir à quoi finalement? Nous attendons les résolutions qui seront issues de cette marche, mais si c'est juste pour que les femmes se rencontrent, comme l'a dit quelqu'un, il y a beaucoup d'argent qui est parti, est-ce qu'on ne pouvait vraiment pas prendre de cet argent et aller au secours des milliers et des milliers de femmes victimes de viols qui croupissent dans nos brousses et peut-être dans nos hôpitaux? Ben, en conclusion, je me dis, attendons voir qu'est-ce qui va arriver, est-ce qu'il y aura finalement une prise en compte effective des femmes violées à partir de cette marche, pendant donc les temps autant.
Merci Jean-Stani Bilanga, premier terme de ce soir, conclave de l'Alliance de la majorité présidentielle. Le comité politique de l'Alliance de la majorité présidentielle AMP en sigle s'est réuni en conclave à Kingakati du 8 au 10 octobre sous la direction de son autorité morale, le président Joseph Kabila. Plusieurs points dont l'évaluation du fonctionnement de l'AMP, la révision de certaines dispositions constitutionnelles et les élections de 2011 ont été examinés. Les détails avec vous, Alain Runga.
Le conclave du comité politique de l'AMP dresse un bilan positif de son fonctionnement. Pour justifier ce bilan, il évoque les objectifs atteints, notamment l'élection de Joseph Kabila, la pacification du pays, la consolidation du processus démocratique, ainsi que la reconstruction du pays à travers les 5 chantiers. Ensuite, l'AMP énumère 8 articles sur les 220 qui sont concernés par la révision constitutionnelle. Il s'agit entre autres de l'article 71 de la Constitution relatif au délai entre les deux tours de l'élection présidentielle. L'AMP pense que 15 jours sont insuffisants pour la nécessité de modifier cet article. Concernant l'article 110 relatif au droit de retour au Parlement des députés et sénateurs après l'exercice d'une fonction politique incompatible, le conclave souhaite que les députés ou sénateurs retrouvent leurs sièges respectifs parce que ce sont eux qui ont le mandat du peuple et non leurs suppléants, souligne le conclave. L'autre révision concerne les articles 197 et 198 relatifs à la gestion des institutions provinciales. L'AMP propose qu'un mécanisme politique soit mis en place pour dissiper souvent les crises qui sévissent au sein des institutions provinciales. Par rapport aux élections de 2011, Louis Koyagia, le secrétaire exécutif adjoint de l'AMP, affirme que le conclave a pris l'engagement au nom de toutes les composantes d'aller aux élections dans la cohésion autour de Joseph Kabila. Il demande aussi l'amélioration du mode du scrutin actuel, la proportionnelle.
Merci Alain pour ce reportage. Rombo Otaba, vous avez suivi les résumés des résolutions issues du conclave de l'AMP à Kingakati. Comment vous analysez toutes ces recommandations?
Dans un premier temps, je voudrais remarquer que c'est légitime pour une organisation politique de s'organiser à la veille des élections. C'est une bonne chose, cela permet aux chefs composantes de se mobiliser davantage. Mais moi, ce qui j'ai noté particulièrement, l'assurance de l'AMP d'affirmer ou de faire croire au président de la République qu'ils ont tous les atouts pour le faire élire dès le premier tour. Alors que la réalité sur le terrain montre que la situation risque de conduire à une forte sanction au regard de la souffrance de la population. Tout à l'heure, nous avons, nous en parlerons, peut-être il y a les médecins qui sont en grève, Les enseignants sont mécontents de leur sort. Aujourd'hui, là, nous sommes le soir, au soir du 15 octobre. Les fonctionnaires, donc, tous les agents de l'État ne sont pas encore payés. Ils attendent encore le salaire du mois de septembre. Faut-il encore là qu'on sache de quel salaire il s'agit? Donc, tous ces mécontentements-là, c'est une voir que, contrairement à ce que les ténors de l'AMP proclament, en 2011, ce ne sera pas une promenade de santé pour le chef de l'État. La bataille sera ardue et je crois qu'il faut qu'il soit sincère avec le chef de l'État en lui faisant montrer la situation réelle sur le terrain pour qu'il puisse, avec son gouvernement, relever certains défis. Parce que si, avec cet enthousiasme-là de témoins de l'AMPE, on risque de connaître des déceptions à l'issue des élections de 2011.
Israël Moussala, l'AMP propose la révision de certaines dispositions constitutionnelles, oui, article sur les 220. L'objectif de cette révision, selon l'AMP, c'est adapter certaines dispositions aux réalités du fonctionnement des institutions nationales et provinciales. Parmi les articles qui doivent être révisés, selon l'AMP, il y a par exemple l'article 71 relatif aux deux tours de l'élection présidentielle, l'article 110 relatif au droit de retour au Parlement des députés et sénateurs après l'exercice d'une fonction politique incompatible avec leur mandat parlementaire. Comment vous voyez ça?
Je ne comprends pas cet acharnement car l'AMP a révisé à tout prix la Constitution. L'article relatif au délai entre les deux tours paraît légitime à être révisé. Mais qu'est-ce qui intéresse d'abord la population ici? Moi, je mets toujours le peuple congolais au-dessus de toute considération. Le peuple congolais a besoin de la stabilité de ses institutions. Cette révision vise quoi? Elle vise aussi, entre autres, à atteindre l'indépendance du pouvoir judiciaire. Parce qu'il y a une résolution qui veut que le ministre de la Justice puisse donner des injonctions au parquet. Alors que, actuellement, il est organisé quand même un certain droit d'enjoindre au parquet d'ouvrir un dossier judiciaire à l'endroit de quelqu'un que l'on soupçonne de troubler l'ordre public. Donc aujourd'hui, nous sommes dans un processus où justement les gens veulent réviser pour leur propre intérêt au lieu de l'intérêt de la nation. Je vous donne un exemple. Vous avez par exemple l'article 99. L'article 99 veut que tous les mandataires qui sont au pouvoir puissent déclarer leurs biens. Puissent déclarer leurs biens avant l'entrée en leur fonction et après qu'ils puissent quitter leur fonction. Tout ça pourquoi? Pour mettre fin à la corruption qui gangrène notre pays. Cet article mérite d'être révisé parce que cette déclaration est secrète. Dans ce cas, comment allons-nous justement contrôler l'enrichissement illicite des personnes qui sont au pouvoir? Avec de tels articles, il serait quand même judicieux que le contrat de l'AMP s'arrête pas sur un tel article et nous disent non, nous voulons plus de transport dans notre pays, moins de corruption et donc nous allons réviser l'article 99 pour que chaque dirigeant, le président, le premier ministre puisse déclarer leurs biens et les biens de leur famille et après la sortie à leur fonction, on vérifie leur déclaration avant et après et on confronte et on ouvre de l'action judiciaire. Ils se sont tués par rapport à cet article. Ils se sont liés pour réviser d'autres articles. Ce n'est pas sérieux. Moi je pense que leur réflexion n'engage que leur groupe politique, mais il faudrait que nous arrêtions au Congo de prendre des lois et après quelque temps de les revisiter. Je rappelle encore ici que ce sont les mêmes cadres de l'AMP qui nous ont dit à l'époque, lors du référendum, que nous avions la meilleure constitution du monde. Ils l'ont vanté dans tous les médias. Ils ont fait des séminaires, ils ont dit voter cette constitution, c'est la meilleure du monde. Aujourd'hui, il n'est même pas encore dit, il n'y a pas encore 10 ans. Ils nous reviennent pour nous dire, révisitons la Constitution parce que tel ou tel article n'est pas bon. Quand on leur faisait entendre raison à cette époque-là, les constitutionnalistes, les journalistes ont attiré plus d'une fois l'attention des mêmes cadres de l'AMP. Je me rappelle encore le ministre Mende, je me rappelle le ministre Kamitatu, je me rappelle tous les ténors du PPRD. Ils nous ont dit que c'est la meilleure constitution du monde. Aujourd'hui, ils reviennent à la charge pour nous dire cette constitution n'est pas si bonne que ça, il faut résoudre.
Mais ils se sont rendus compte peut-être que cela n'est pas adapté aux réalités du pays.
Qu'est-ce qui nous garantit que dans 2 ans, dans 3 ans, ils ne reviendront pas encore à la charge et nous dire que cette constitution n'est pas la meilleure? Arrêtons, soyons sérieux.
Merci Israël Moussala, Jean-Stanis Dilanga. Comment vous analysez cette proposition de l'AMP de réviser certaines dispositions de la constitution?
Oui, avant d'arriver là, parlons tout d'abord, je voudrais faire un petit parallélisme entre Kisangani et Kindakati. Vous savez, nous avons vécu le conclave lié à l'université du cinquantenaire organisé par le PPRD en août dernier ici à Kisangani. Et ce qui fallait ou ce qu'on a pu retenir, c'est que pour les PPRD, Joseph Kabila devait se présenter sous le label du PPRD .3. Et c'est ce qui a valu, n'est-ce pas, un tollé des autres membres de l'ANP. Je me suis dit qu'on voudrait s'approprier, le PPRD voudrait s'approprier Joseph Kabila. Mais voilà que Kindakati rectifie un peu les tirs. L'ANP ou les partis et personnellement de l'ANP disent non, Joseph Kabila doit finalement se présenter sous le label de l'ANP, donc les candidats de l'ANP. Voilà un peu ce que je voudrais soulever. Mais ce qu'on peut retenir des propositions, ce ne sont que des propositions. Ce sont des hommes politiques. Ils trouvent que pour convaincre l'opinion ou pour gagner les élections, il faut absolument modifier les spécialités d'article de la Constitution. Mais qu'est-ce qu'il faut dire de ça? Il faut tout simplement dire que l'homme politique cherche à gagner, n'est-ce pas, et à exercer ses pouvoirs. Et c'est ce qui fait qu'il puisse proposer. Et là encore, ce ne sont que des propositions. Et il faudra encore que l'Assemblée nationale, même le Sénat, puisse donner raison à ces propositions. Donc, il n'y a pas à avoir peur, ce sont des propositions, on va débattre. Et si la majorité des parlementaires trouvent que ça vaut la peine, eh bien, on va le faire. Le Conseil disait tout à l'heure qu'on a crié, c'est la constitution, la meilleure des constitutions du monde. Il n'y a jamais eu de meilleure constitution sur cette terre des hommes. Ce sont des hommes qui le font. Et également, ce sont des hommes qui peuvent rectifier. Donc, pour ma part, je trouve que ce sont des revendications légitimes, des politiques, mais il faut peut-être voir est-ce que les autres membres de l'Assemblée nationale, les autres parlementaires vont bien analyser ce qui vient de se faire là. Ce ne sont que des propositions, il n'y a pas à plus.
Merci Jean-Stanis Bilanga. Parlant des élections en 2011, l'AMP propose au Parlement d'améliorer le mode de scrutin actuel, Rombo Tabac. Le mode de scrutin actuel n'est pas adapté.
Ils disent que le mode proportionnel favorise les petits partis. Moi, je pense qu'ici, le mieux aurait été de demander au ministère de l'Intérieur de ne pas agréer n'importe quel parti. Il y a beaucoup de partis malhonnêtes, alors ça ne sert à rien. Voyez-vous, prenons le cas des États-Unis d'Amérique, la plus grande puissance du monde, le cas de la France et de la Grande-Bretagne, avec 2 ou 3 partis, ça suffit. Mais ici, chacun se réveille le matin, il veut devenir ministre, alors il veut créer son parti politique. Au point où il y a beaucoup de partis, je crois, aujourd'hui, nous sommes à une, ça doit être là, nous sommes, je crois, au-delà des 500 partis politiques, mais ça sert à quoi? Ça fait la honte du pays. Moi, je pense que la meilleure des choses, c'est de dire qu'en principe, si par exemple, pour un parti politique qui ne peut pas avoir un député dans chaque province, moi, je pense que ce genre de partis politiques locaux ne doivent pas, on doit les retirer leur agrément. Il faut que les gens aient le courage de se constituer en grand parti. Et les gens de là, par exemple, si tout le monde ne veut pas un groupe PPRD, qu'ils créent un grand parti politique, que les alliés de l'MLC se coalisent, créent notre parti, les partisans de Tshisekedi, tout ça. Parce qu'avoir 500, 400 partis politiques, et à l'issue des élections, on a juste un parti, un seul député, et c'est le président là. Fait beaucoup de bruit, comme il fait de bruit, on le prend, on le met ministre, et là, il veut se constituer comme une personnalité. Moi, je pense qu'au lieu de s'acharner sur la modification de cet article de la Constitution qui vise le mode proportionnel, il faut plutôt établir des principes qui doivent être un parti politique. qui doit créer un parti politique. Il ne faut pas qu'il y ait une floraison de partis politiques avec des petits leaders locaux qui font des bruits inutiles dans le pays. Et ça ne peut pas avancer.
Merci, Rombo Taba. Israël, j'allais réagir rapidement sur la même question, améliorer le mode scrutin.
Oui, je pense que moi, je suis très attaché au pluralisme politique. Je pense que le mode proportionnel actuel, c'est vrai, n'a pas empêché qu'aujourd'hui, que le pouvoir actuel ait une relative stabilité, en dépit du fait que nous sommes dans un mode proportionnel. Donc, il y a des variantes de la proportionnalité, plus fort reste, plus forte moyenne, plus grand reste, tout ça. Il y a des variantes. Mais ce que veut aujourd'hui l'AMP, c'est de quitter le mode proportionnel, mais pour un mode majoritaire. Or, le mode majoritaire, justement, favorise certains partis. C'est vrai qu'aujourd'hui, le PPRD, avec ses alliés, avec l'exercice du pouvoir, ont plus de moyens pour implanter leur parti sur l'ensemble du territoire. Les autres aussi. Je pense que s'ils avaient le moyen d'État, ils pouvaient s'implanter aussi sur l'ensemble du territoire. Donc tous les partis ici, à l'exception de peut-être de l'UDPS, tous les grands partis ici, ne l'ont été, ne se sont implantés sur le territoire national à la faveur de l'exercice du pouvoir. Aujourd'hui, vous demandez un parti comme l'AFDEL, il n'existe plus. Le MPR, c'est l'ombre de lui-même.
En conclusion ?
Voilà. En conclusion, je dis que c'est vrai, quand vous lisez Morse divergé, on vous dit que le mode proportionnel favorise l'instabilité gouvernementale et que les SKT majoritaires favorisent l'instabilité. Mais encore une fois, il y a des variantes donc, de mode proportionnel qu'on peut justement affiner, mais il faudrait absolument que notre démocratie, n'étant plus fragile, soit plus représentatif pour essayer de maintenir la cohésion nationale.
Merci Israël. Arrestation lundi dernier à Paris de Calixte Mbarushimana, secrétaire exécutif des forces démocratiques pour la libération du Rwanda FDLR. C'est notre deuxième thème de ce soir. Le secrétaire exécutif des forces démocratiques pour la libération du Rwanda, soupçonné des crimes de guerre et crimes contre l'humanité dans le Kivu en 2009, a été arrêté lundi à Paris, a annoncé la Cour pénale internationale selon un communiqué de la pays. Les autorités françaises ont arrêté Calixte Mbarushimana en vertu du mandat d'arrêt délivré sous scellé par les juges de cette cour le 28 septembre 2010. C'est la première personne mise en accusation par la CPI pour des crimes commis au Kivu. Le point avec Pascal Matérica.
Calixte Mbarushimana, âgé de 47 ans, qui dirige le FDLR depuis juillet 2007, est accusé par la Cour de la Haye d'être impliqué avec son groupe dans plus de 300 viols dans le Nord Kivu. La CPI avait émis un mandat d'arrêt à son encontre le 28 septembre. Il a été placé dans un centre de rétention et dans 5 jours, il sera présenté au procureur général de Paris avant sa remise à la CPI, a dit le parquet de Paris. Le procureur de la CPI, Luis Moreno Campo, qualifie son arrestation d'étape essentielle dans les efforts menés pour juger les crimes sexuels de masse commis à RDC. Calixte Mbarushimana doit répondre de 11 chefs d'accusation de crimes contre l'humanité et crimes de guerre, y compris de meurtres, de viols, persécutions fondées sur le sexe et destruction de propriétés, des faits qui auraient été commis en 2009. Son arrestation est le résultat de 2 ans d'enquête commune menée par la France, l'Allemagne, la RDC, le Rwanda et la CPI.
Merci Pascal Masurika. Jean-Stanny Bilanga, vous êtes journaliste à la Radio-Télévision Nationale Congolaise à Kisangani dans la province orientale. Quelle analyse vous faites de cette arrestation?
Très bonne chose, hein, très bonne chose, l'arrestation de Calixte Mbarushimana, c'est une très bonne chose. Mais la question est de savoir, est-ce qu'avec son arrestation finie, ce qu'on lui reproche dans l'est de la République démocratique du Congo, et si cela sera fini, c'est tant mieux. Mais les Nations Unies devraient plutôt chercher aussi ailleurs. C'est bon de traquer le FDLR, c'est une très bonne chose, mais les Nations Unies, à mon sens, devraient aussi pousser le pouvoir à Kigali de libéraliser l'espace politique, hein, n'est-ce pas? Ainsi, franchement, on mettrait fin, je crois, à l'histoire du FDLR dans l'est de la République démocratique du Congo. Donc il est bien bon d'arrêter le FDLR, il est bien bon de les combattre, mais si l'ONU cherche à mettre fin définitivement à ce drame que nos frères, nos sœurs vivent dans l'est du pays, je pense qu'il serait aussi mieux que les Nations Unies puissent amener Kagame, contraindre Kagame contient le pouvoir de Kigali à démocratiser le pays. Ainsi, nous verrons peut-être que les FDLR seront acceptés dans leur pays et on ne vivra peut-être pas les drames et conflits chez nous ici en République démocratique du Congo. Voilà la lecture que j'ai fait, du moins la première lecture que j'ai fait par rapport à l'arrestation de Kalifa Mbarushimana.
Rombo Taba, le gouvernement congolais se dit satisfait de l'arrestation de Kalifa Mbarushimana. Le ministre de la Communication et Médias a exprimé cette satisfaction en indiquant qu'elle va avoir un impact majeur sur l'activisme du mouvement des FDLR. Vous avez dit que cette arrestation peut avoir un impact sur l'activisme du mouvement FDLR.
Vous savez que la vie humaine est sacrée. Il n'y a que Dieu qui a créé l'homme qui peut se permettre de doter la vie à quelqu'un. Et aujourd'hui, l'arrestation de Kalifa, c'est remet à la surface le dossier Nkundabatware. Qu'est-ce que Nkundabatware est devenu? Le gouvernement avait promis de nous l'amener ici à Kinshasa pour un procès public. On ne sait plus jamais qu'est-ce que Nkundabatware est devenu. Le gouvernement ne veut pas livrer Jean Bosco Ntaganda. Aujourd'hui, le ministre de la Commission régie de l'arrestation du Rwandais Kalifa. Et lorsqu'on nous pose la question de savoir pourquoi il ne veut pas livrer, pourquoi le gouvernement ne veut pas livrer Bosco Ntaganda, quelle raison il peut avancer? Parce que tous ces gens-là qui commettent des massacres doivent être sanctionnés sévèrement. Moi, je pense que si le gouvernement se réjouit de l'arrestation de Kalifa, il faut qu'il montre aussi sa bonne volonté, qu'il remette Bosco Ntaganda à la CPI et qu'on nous ramène Laurent Nkunda.
Israël Moukala, est-ce que l'arrestation du secrétaire exécutif des FDLR, Kalifa Mbarushimana, peut avoir un impact sur le retour de la paix à la sécurité à l'Est?
Oui, elle aura un impact. Parce que...
Dans quel sens? Parce qu'il n'était pas directement lié aux opérations militaires sur terrain.
Tout à fait. Il faut savoir que Kalifa a été arrêté comme auteur intellectuel de crimes contre l'humanité, de crimes de guerre dans l'Est du pays. En tant que responsable numéro 1 de FDLR, c'est lui il a une responsabilité dans la planification, dans la mobilisation de fonds et dans un certain idéal. Parce que justement, avec son appui, les FDLR avaient une vision, avaient un cap. Ils avaient une vision politique. Mais quand on décapite la direction politique de FDLR, quand on décapite leur tête pensante, ils auront moins d'argent pour financer leurs activités, ils auront moins de répondants extérieurs pour essayer de vendre leur politique, non pas dans le pays. Et donc, c'est une très bonne chose. Mais je dis que c'est un pas dans la bonne direction, mais ce pas-là n'est pas suffisant. Parce que Kalifa intervient partie de Paris, parce que sur notre territoire, il y a encore de FDLR. Je rappelle que le FDLR, c'est un mouvement terroriste qui est encore allié il y a peu au gouvernement de Kinshasa. Il ne faudrait pas que nous ayons la mémoire courte dans ce pays. Parce que pendant de longues années, ils étaient alliés au gouvernement de Kinshasa. Et donc aujourd'hui, nous nous rendons compte qu'ils sont vraiment une catastrophe pour nos populations, une catastrophe pour notre économie, une catastrophe pour notre pays. Mais il faudrait que les responsabilités soient toujours restituées dans leur historicité. Donc aujourd'hui, il faut bien que tout Kinshasa se réjouisse de cela, mais que Kinshasa n'oublie pas qu'il avait une part de responsabilité dans le développement de ce mouvement. Donc aujourd'hui, la première phase, c'est décapiter justement les structures politiques de FDLR, c'est une bonne chose, mais ici, notre part, en collaboration avec la communauté internationale, c'est d'essayer de cantonner les FDLR. Il ne faut pas conditionner la paix au Congo, comme l'a dit le conseil de Kisangani, avec la démocratie au Rwanda. La démocratie au Rwanda, c'est une autre chose. C'est un leurre, vous allez attendre longtemps. Donc, notre problème ici, c'est de traquer les FDLR, les cantonner. S'ils ne veulent pas rentrer dans leur pays, au moins qu'on leur désarme et qu'on sache où ils sont. Aujourd'hui, ils sont au nord et au sud de Kivu. Ils sèment la désolation dans nos populations. Et donc, on ne va pas attendre une hypothétique démocratisation du Rwanda pour mettre fin à cette situation.
Merci, Israël Moukala. Jean-Stanley Bilanga, certains observateurs pensent que ce problème des FDLR, c'est un problème qui doit se régler directement entre les deux gouvernements, donc le gouvernement de la RDC et celui du Rwanda. Alors, Jean-Stanley, je crois que nous l'avons perdu. Vous allez répondre à cette question. Le problème FDLR, c'est un problème qui doit se régler entre les deux gouvernements de la RDC et du Rwanda.
Oui, mais avec la médiation de la communauté internationale, parce que n'oublions pas toujours que c'est un peu la conséquence de la communauté internationale qui a déversé, qui a autorisé que ces gens pénètrent en République démocratique et de Zaïre. Donc moi je pense effectivement, mais la question que je me pose c'est que toutes ces résolutions qui ont servi à la conférence internationale sur la paix dans les Grands Lacs, c'est devenu quoi? Dernièrement, je crois, je ne sais plus, en 2008, il y a eu une conférence de paix sur le développement du Grand Kivu. Il y a eu des résolutions qui ont été prises. C'était justement en vue de mettre fin, de pacifier cette partie de la République démocratique du Congo. Mais à mon grand étonnement, j'ai constaté qu'on a jeté toutes ces résolutions dans les poubelles. Mais est-ce que c'était un manque de vision, c'était un manque d'intelligence de la part de ces deux pays, je ne sais pas. Ou bien ce sont des combines politiciennes qui veulent cette situation perdure pour l'intérêt bien compris de certains politiciens. Bon, là, il faut que les analystes nous le disent, mais de toutes les façons, il faut absolument que les dirigeants des deux pays prennent leur courage entre les mains pour se parler sincèrement, envie de mettre fin à cette situation. Mais on dirait qu'ils sont en train de jouer un jeu de coulisses et font perturber cette situation. Moi, je pense que c'est pas le manque. Il y a avec un peu de courage, de bonne volonté et d'intelligence, on peut mettre fin à cette situation.
Et j'ai même qu'à la plusieurs opérations militaires ont été menées contre les FDLR, mais apparemment, ils sont toujours opérationnels. Qu'est-ce qu'il faut faire?
Madame, nous sommes journalistes ici et plusieurs fois nous avions dit que dans la communication du gouvernement, il y a beaucoup de propagande. Et nous, en tant qu'observateurs, nous ne devons pas nous laisser berner par la propagande. Le ministre Mende avait dit que la capacité d'opération de l'FDLR avait été détruite à 90%, c'est sans se perdre. Il avait parlé de l'opération au Mojawetu, à Manileo, que c'était des succès, faisant référence par exemple à la LRA, il avait dit qu'on avait détruit à 70% d'enfants. Mais quand on analyse les faits sur le terrain, ils sont loin, ils ne respectent pas les propos du ministre. C'est-à-dire que le travail de la pacification de l'Est est un travail qui demande beaucoup d'humilité au gouvernement, qui doit s'appuyer sur la communauté internationale, notamment à travers la MONUSCO, et une diplomatie intelligente avec le Rwanda et l'Ouganda. Ça, c'est un fait. Ils ont pris cet acte-là, mais ils doivent maintenant avoir le courage que de telles décisions stratégiques puissent être débattues pleinement à l'Assemblée nationale, que les options soient levées pour que nous terrassions une fois de plus, une fois pour toutes, tous les groupes armés qui créent la mort dans l'Est du pays.
Merci Israël, on n'a plus beaucoup de temps, nous devons passer à notre dernier thème de ce soir, grève généralisée dans les secteurs de la santé en RDC. C'est depuis lundi que le mot d'ordre des grèves des médecins a été lancé sur toute l'étendue de la RDC par le syndicat national des médecins de la RDC, Sinamed. Le mardi déjà, plusieurs hôpitaux de la capitale étaient sans médecins. On a tout de même noté l'organisation d'un service minimum. Le secrétaire national du Sinamed, le docteur Moncoy, affirme que c'est après beaucoup d'avertissements et préavis de grève adressés au gouvernement que les médecins se sont décidés de lancer ce mouvement de grève jusqu'à ce que leurs revendications soient prises en compte. Les détails dans ce reportage de Michel Kikinda.
L'ambiance semble être normale dans quelques hôpitaux visités ce matin à Kinshasa. À l'hôpital général, par exemple, les médecins stagiaires et infirmiers sont observés en bon nombre. Mais, très curieusement, les médecins n'ont presque pas fréquenté les hôpitaux ce mardi. Seul un service minimum continue à être offert aux malades. Une garde malade trouvée aux cliniques d'Ngaliema affirme n'avoir vu aucun médecin depuis le matin.
Depuis le matin, on n'a pas vu de docteur. Je ne sais pas s'il y a la grève ici, mais depuis le matin, on n'a pas encore vu de médecin faire même des tours de salle.
Cette grève est due à la non-exécution du protocole d'accord entre le gouvernement et la Sinamed. Le secrétaire national de Sinamed affirme que la grève est lancée après préavis. Docteur Moncoy.
Vous savez, quand vous avez adressé un préavis de grève, vous avez écrit au premier ministre depuis le 6 janvier pour lui dire que l'exécution du protocole d'accord du 12 septembre 2009 pose un problème. Il n'a pas répondu. Nous avions rappelé le 16 mars 2010. Il n'a pas répondu. Le 8 juillet 2010, nous lui avons écrit. Il n'a pas répondu.
Toutefois, la grève ne sera levée que si le gouvernement accepte de revoir l'allocation de la rémunération des médecins, la prise en charge de 870 médecins impayés depuis 2009 et la mécanisation des médecins admis sous statut, a affirmé Dr. Moncoy.
Merci Michel pour ce reportage. Signalons que les infirmiers ont convoqué les pas. Parmi les revendications des infirmiers, citant le réajustement de la prime des risques d'environ 52 000 infirmiers, et la mécanisation des infirmiers nouvellement immatriculés. D'autre part, la solidarité syndicale des infirmiers du Congo, Solfico, exige du gouvernement congolais le paiement salarial d'environ 40 millions de francs congolais. Israël, non. Robot, ça va. Encore une grève de plus dans le secteur de la santé en RDC. Pourquoi le gouvernement congolais n'arrive pas à respecter ses engagements?
Justement, c'est ça la question fondamentale que nous devons nous poser. Les gens veulent bien avoir le pouvoir, mais qu'est-ce qu'ils font de ce pouvoir-là? Je vous dis que la situation des médecins, des infirmiers, peut se généraliser dans tous les secteurs de la vie nationale. Si vous allez aujourd'hui à la fonction publique, chez les enseignants, vous avez cité donné sur cela pour les infirmiers. Je vous dis aujourd'hui qu'il y a au moins 80 000 enseignants qui prêtent effectivement, mais qui ne sont pas mécanisés. Qui ne sont pas mécanisés à travers tous les prix. Donc, vous voyez que le fonds social, en principe, est en ébullition. Et c'est ça le genre de problème auquel les gens qui se réunissent à Kindakati préfèrent donner, accorder beaucoup de priorité au lieu de parler de la révision du délai entre les deux. Tout. Voilà le problème. Et ils promettent une victoire éclatante au chef de l'État, au premier tour, mais ils ne le font pas voir le défi à relever. Est-ce que pensez-vous que les médecins, les fonctionnaires qui se sentent si floués vont aller au jour 2011 et redonner leur voix au même tenant du pouvoir qui les martyrise aujourd'hui? Et c'est ça la question. Alors moi, c'est pourquoi je me dis qu'il faut une nouvelle génération de politiciens dans ce pays qui comprennent que quand on a le pouvoir, c'est d'abord pour servir, c'est une sorte d'apostolat. On ne vient pas au pouvoir pour s'enrichir, pour se construire des immeubles. C'est pour servir les gens qui vous ont placé là-bas. Donc c'est décevant de constater que, même lorsqu'on parle des salaires, là, des fonctionnaires, des anciens, vous savez qu'il y a une ordonnance présidentielle qui fixe le SMIC dans ce pays à 100 dollars. Mais aujourd'hui, écoutez, les directeurs à la fonction publique ne touchent même pas 70 dollars. Alors que le SMIC, c'est le salaire minimum. Donc, le huissier doit au moins toucher 100 dollars aujourd'hui. Mais ce n'est pas le cas. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup de défis à relever et qu'il ne faut pas que les tenants du pouvoir s'effacent. Disons, il y a beaucoup à faire et il ne faut pas qu'ils se complaisent à croire que la tâche est facile et que les chemins sont balisés pour une victoire pour une communauté de santé.
Merci, Rombo Taba. La réalisation nous signale qu'on a perdu Jean-Stany Bilanga. On va continuer avec Rombo Taba et Israël Moussala. Israël Moussala, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter justement ces grèves? C'est pas seulement dans le secteur de la santé, c'est presque dans tous les domaines. Même dans l'enseignement, il y a à Kisangani, les enseignants sont en grève. Qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter ces grèves?
Ce qu'il faut faire, mesdames, c'est instaurer la bonne gouvernance comme mode de gestion de l'État. Nous ne sommes pas dans la bonne gouvernance. Nous sommes dans un type de gouvernance qui nous crée le problème. Je vais vous donner un exemple. Je replace toujours le gouvernement qui va devant ses responsabilités. Le gouvernement ici, pendant cette législature, avait dégagé des moyens pour payer la bourse aux étudiants. Cette bourse aux étudiants est margée du budget de l'État. On avait dit à l'époque au gouvernement que c'était une décision insensée. Vous n'avez pas encore maîtrisé le nombre de fonctionnaires, mais non, vous n'avez pas encore maîtrisé la masse salariale. Ça ne servait à rien de marger une nouvelle catégorie de gens au budget de l'État. Ils avaient fait la sourde oreille. Aujourd'hui, la mesure s'était sauvée. Il n'y a plus de bourse de 30 dollars payée aux étudiants. Je vous donne un autre exemple, madame.
Et rapidement,
cette année avait été proclamée année du social. Et vous vous rendez compte que nous sommes dans un pays plutôt où il y a des grèves. Le salaire, c'est le salaire qui confère la dignité aux gens. Je vais vous donner l'exemple de ça. Le salaire d'un médecin en République démocratique du Congo, il oscille entre 62 800 francs et entre 52 800 francs et 62 000 francs. Voilà le salaire de base d'un médecin congolais. À ce salaire de base, il y est payé ce qu'on appelle la prime de risque, qui est d'à peu près 280 000 francs congolais, plus des honoraires de 50 dollars.
Vous tirez ça d'où?
Je tire ça de cliniques universitaires, qui est la référence en matière hospitalière. Je pense que ce pays ne peut se relever qu'avec une classe moyenne. Les médecins, c'est la crème de la société. Les avocats, les magistrats sont la crème de la société. Parce que ces catégories sociales ne sont pas à l'abri de besoins, Quelle société allons-nous construire? Les médecins ont du mal à payer le loyer, ont du mal à se loger, ont du mal à éduquer leurs enfants. Les médecins ont droit à des salaires décents, ils ont droit à ce qu'on leur reconnaisse un statut spécifique. Voilà ce que je voulais dire à ce sujet.
Merci Israël Moussala, c'est par vous que nous mettons fin à cette émission. Merci aussi à Rombo Otaba. Merci à Stanley, mais qu'on a perdu au cours de l'émission. Merci à Alain Hung qui a réalisé pour vous cette émission. Sylvain Matung était à la technique. Kéline Couture vous l'a présenté. Retrouvez là sur notre site internet www.radioocapi.net. Bon type de programme sur la séquence de la paix. Thank you.